Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouvel épisode de Cinébranche, formule Louis à la barre de l'animation. Je suis encore une fois accompagné de mes deux co-animateurs, Jim.
Allô?
Et Mélina.
Oui, bonjour.
Comment ça va, guys?
Ça va bien.
Très bien.
Excellent. Fait que on a eu une grosse semaine quand même au niveau du cinéma. On a des beaux films qui sont sortis cette semaine. On a entre autres Jim qui a été voir La Confession, Mélina qui a été voir Pierre Lapin,
mm-hmm.
et moi-même qui a été voir Hors de nulle part, In the Fade, qui était disponible uniquement sous-titré allemand, sous-titré mm-hmm. français, ce qui était quand même intéressant comme expérience de visionnement. Mais d'abord et avant tout, les nouvelles de la semaine. Jim, qu'est-ce que t'as pour moi?
Écoute, comme aujourd'hui j'ai été voir le film La Confession, mais je dois me confesser moi-même parce que je suis allé, je me suis laissé enfiroiper par une série très américaine que j'essaie d'éviter en temps normal, mais Dieu est mon âme, la série Colony est apparue sur Netflix et j'ai écouté le pilote en pensant que ce serait du pareil au même que les autres. Résultat, j'ai presque fini la saison 2 et je devrais attendre un certain nombre de mois pour la saison 3. L'histoire se passe à Los Angeles alors que la population est depuis un certain temps prisonnière d'une grande murale mise par les RAP, une espèce extraterrestre qui a transformé la Terre en colonie, d'où le nom colonie. Il y a une résistance qui s'est créée et tout est rationné. Les produits de luxe sont utilisés comme une monnaie d'échange par les citoyens. Bref, une série de science-fiction, mais aussi très politique et policière, puisqu'on suit un ancien agent du FBI qui décide d'aider l'occupation dans le but de récupérer son fils qui est resté en dehors du mur. Donc, série malheureusement fort intéressante et captivante qui nous laisse envie d'écouter le prochain épisode jusqu'à ce que les petites heures du matin se fassent voir. Voilà, donc c'est ça.
Excellent. Et toi, Mélina, qu'est-ce que t'as pour nous autres?
Oui, en fait, moi, c'est un sujet qu'on n'a pas parlé la semaine dernière, mais qu'on aurait dû. C'est la bande-annonce du Star Wars, l'histoire de Han Solo, en fait, qui est sortie après le Super Bowl. Donc, on voit la bande-annonce de ce nouveau film. Donc, avec les acteurs, on va avoir Alden Ehrenreich dans le rôle de Han Solo. Donc, ça va être la première fois que ce ne sera pas Harrison Ford qui va le jouer. Et ça a l'air très prometteur.
J'ai aussi beaucoup d'appréciation pour Donald Glover, qui va justement jouer le rôle de Lando Calrissian. Un acteur, un rappeur et un comédien extraordinaire. Non, mais pas de farce, le gars est juste multitalent. Ça fait quasiment chier. Pour ma part, je vais continuer justement dans l'univers de Disney en parlant de Black Panther, le nouveau film de Marvel, qui est sorti jeudi dernier, mais qui, au niveau des critiques, est déjà en train de rapporter des records au niveau des films de Star Wars, des films de Marvel.
Ah oui?
C'est le film de Marvel qui, jusqu'à présent, a le meilleur score Rotten Tomatoes jamais enregistré. Les critiques le hailent comme étant la nouvelle venue du Seigneur, la meilleure chose depuis le pain tranché, puis finalement, une voix intéressante pour les hommes noirs, et en fait, les gens de couleur dans l'univers Marvel. Il y a deux seules personnes blanches dans le casting. C'est Martin Freeman et...
Morgan Freeman?
Non.
OK, parce qu'il est bien noir, lui.
Non, okay. Martin. Le...
Ah, OK, oui.
C'est ça. Puis, c'est quoi son nom? Qui jouait Gollum dans Le Seigneur des Anneaux.
Méconnaissable, j'imagine.
Oui, définitivement. Mais bref, non, c'est ça. J'ai bien hâte d'aller le voir au cinéma. C'est probablement très bientôt.
Imminemment, oui.
Yes! Fait que ce serait la fin de nos nouvelles. Mélina, t'as été voir Pierre Lapin cette semaine. Comment c'était?
C'était franchement très drôle. C'est basé, en fait, sur les livres de Béatrix Potter, les livres pour enfants qui sont parus au début du 20e siècle. Et il faut savoir avant tout que c'est un film qui mêle des prises de vue réelles avec des vrais acteurs et des animations par CGI. Donc, c'est un film qui a été réalisé par Will Gluck et qui met en scène Rose Byrne et Domhnall Gleeson, qui jouent les deux personnages principaux. Et pour les voix des lapins, on a notamment James Corden qui fait la voix de Pierre Lapin et Daisy Ridley qu'on a vu dans les deux derniers Star Wars qui fait la voix d'une de ses sœurs. Donc, comme je disais, on retrouve Pierre Lapin, ses trois sœurs et son cousin Benjamin, le jardinier Monsieur McGregor et la charmante voisine amie des animaux Béa. Pierre Lapin aime bien aller chercher des bons légumes bien frais dans le jardin de M. McGregor, qui essaie de se débarrasser d'eux de tous les moyens possibles. Donc, on va aller écouter la bande-annonce.
Il était une fois, dans une forêt magnifique, un lapin prénommé Pierre, qui portait une veste bleue.
Oh, pardon!
Mais pas de pantalon.
Entrez, les amis, le jardin est à nous! Surtout, faites-vous plaisir. Attends, c'est pas toi qui voulais me manger? Montre-moi un peu tes dents. Allez, fais-moi un petit... C'était toi! Ah, j'en étais sûr. Comment tu vas? C'est cool de t'avoir revu.
Donc, une belle bande-annonce. Donc, on retrouve de Pierre Lapin, alors que dans l'histoire originale, dans les livres pour enfants, c'était un jeune lapin qui vivait avec sa mère et ses sœurs. On le retrouve aujourd'hui plus âgé, responsable de sa fratrie depuis le décès de sa mère. Et au début du film, M. McGregor décède et c'est donc son arrière-grand-neveu, Thomas, qui hérite de sa résidence et donc du jardin. Thomas, comme son arrière-grand-oncle, déteste les animaux et les lapins, parce qu'ils viennent évidemment voler ses légumes. Et des sentiments amoureux se développent entre Thomas et sa voisine Béa, qui, elle, adore les animaux. Une rivalité s'impose donc entre Thomas et Pierre Lapin, qui innovent dans leurs moyens d'essayer de se débarrasser l'un de l'autre.
Pauvre lapin.
Oh oui. Personnellement, j'ai vraiment adoré le film. L'animation, le CGI sont excellents. Les détails et les mouvements dans les poils de lapin, c'est vraiment des heures de travail. Puis, ça donne un rendu qui est tellement réel qu'on oublie facilement que c'est généré par ordinateur. Leurs poils, ils ont l'air vraiment doux et soyeux. Et mention spéciale au moment où on passe d'animation des dessins originaux au film. Donc, c'est un très beau clin d'œil au livre original.
Attends, je vais juste prendre une seconde, juste pour être sûr. Dans le fond, c'est tout ce travail-là destiné à représenter un triangle amoureux entre une femme, un homme et leur lapin?
Non, mais le lapin, en fait, il la considère plus comme la mère qu'il n'a jamais eue. Mais c'est plus une rivalité parce que Thomas n'aime pas les lapins parce qu'ils viennent voler ses légumes. Et okay. Eux vont manger les carottes et autres légumes dans le jardin parce que... Ils se nourrissent.
Est-ce qu'il est mention de manger les lapins ou ça, le film?
Oui,
est... oui, OK.
Comme dans le... Ben, en fait, on reprend un peu le concept des livres pour enfants où on dit que le père de Pierre Lapin a été mis en tarte par la femme de M. McGregor. Donc, on en reparle dans le film. On refait mention à ça. Et c'est ça. Donc, si vous écoutez Cinébrunch depuis quelques temps, vous savez sans doute que j'aime beaucoup aller voir des films d'animation. Je suis le genre de personne qui croit que les films d'animation, c'est vraiment pas juste pour les enfants. Ça doit être mon côté...
Il y en a pour enfants, c'est ça la différence.
Il y en a pour enfants, exactement. Il y en a pour adultes aussi, c'est moins connu. Mais c'est ça, ça doit être mon côté jovial et bon enfant.
Ça me dit quelque chose, ça.
Bref.
Ah oui, OK.
C'est la biographie de Louis sur notre site web.
Et je n'arrête pas de manger de la chenoute à ce sujet-là depuis que je l'ai écrit. Ça m'apprendra à vouloir faire fancy.
Voilà. Donc, dans Pierre Lapin, on réussit vraiment à avoir différents niveaux d'humour. Et dans la salle, les adultes, honnêtement, riaient autant que les enfants, pas nécessairement au même moment. Mais c'est un film qui m'a fait pleurer d'émotion, surtout de rire, parce que ça tombait vraiment dans mon type d'humour. Pierre Lapin va clairement rentrer dans mon répertoire de films d'animation que j'aime et que je vais revoir avec, entre autres, Zootopia et, sans dessus-dessous, Inside Out, qui reste quand même mon numéro 1. Ma seule crainte avec ce film-là, c'est que ça fasse comme avec plusieurs autres films, donc, par exemple, Les Tortues Ninja, et que plusieurs enfants veulent adopter des lapins pour finalement se rendre compte qu'ils ne sont pas comme Pierre Lapin et que tous ces lapins se retrouvent malheureusement dans des refuges pour animaux.
Hey, je savais pas que ça avait fait ça avec les Tortues Ninja.
C'est un des aussi qui a été très dramatique il y a plusieurs années, c'était les 101 Dalmatiens.
Oui.
Parce que les Dalmatiens ne sont pas des chiens le fun à avoir à la maison avec ça.
Effectivement.
C'est des grandes affaires, ça bam, c'est pas nécessairement brillant. Puis apparemment que la Société protectrice des animaux se ramassait avec une quantité un peu ridicule de Dalmatiens, peut-être un an ou deux après la sortie du film.
C'est ça.
Ce qui est quand même terrible,
c'est
mais
terrible,
quand même
ben oui.
Temps, c'est ça. C'est tout le temps dur de faire la part.
Lapin des choses.
Mais là, il faut absolument qu'on parle de la grosse controverse de ces derniers jours. Oui, voilà, avec plusieurs personnes qui ont invité au boycott du film de Pierre Lapin. En résumé, comme je vous disais tantôt, les lapins essaient de se débarrasser de Thomas de différentes façons. Eh bien, il y a un de ces moyens-là qui n'a pas passé aux yeux de plusieurs associations de parents ayant des enfants avec des allergies alimentaires. Parce que les lapins apprennent que Thomas est allergique au mur noir et vont donc lui en lancer une en pleine gorge, provoquant donc un choc anaphylactique. Évidemment, Thomas ne va pas mourir parce qu'il a son épipène dans sa poche. Les associations dénoncent Sony et le film en disant qu'ils font du « allergy bullying », qu'on pourrait traduire par du « harcèlement allergique ». Sony s'est publiquement excusé lundi matin de la situation. Je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez de cette controverse-là. Jim, t'as vu le film avec moi. Est-ce que cette scène-là t'a choqué quand tu l'as vu?
Ça m'a surpris, mais pas pour les mêmes raisons que ces groupes-là. Là. Ça m'a surpris parce que j'ai eu peur. T'sais, on disait tout à l'heure que des gens, après les Tortues Ninja, ont acheté des tortues. Ben, moi, je me suis imaginé, moi, jeune, et peut-être que ça aurait mis dans ma tête l'idée de provoquer ça chez des gens que je connais qui sont allergiques. Pas méchamment, mais t'sais, en voyant que... C'est pas si grave dans le dessin animé. Ça avait pu me donner une idée de faire une chose pareille. Par contre, ça me choque pas dans le sens où je pense pas que c'est du bullying, là, comme le dit l'article. Moi, je pense que quand même, on peut pas commencer à s'empêcher d'inventer des choses puis de faire des histoires, surtout que cette histoire-là est basée sur d'autres choses, mais...
Je sais pas. Puis ça revient un peu à ce qu'on disait justement avec les 101 Dalmatiens puis les Tortues Ninja, c'est que... Ce genre de... Je pense pas qu'on devrait censurer toutes les blagues. Je pense qu'il y a encore moyen de faire des blagues d'allergie, ou il y a encore moyen de monter un setup comme ça. Mais dans ce cas-ci, c'est que c'est un film, je m'excuse Mélina, mais celui-là est définitivement destiné aux enfants. Oui. C'est pas nécessairement eux qui démontrent le meilleur sens critique. Là. Comme à ce jour, je veux bien, là, mais s'il y a bien quelqu'un qui est pas capable de considérer les conséquences de ses actions, c'est des jeunes hommes et des jeunes femmes de l'âge duquel ce film-là est destiné. Fait que non. Moi, je pense que cette joke-là va trop loin. Je pense qu'on aurait pu faire un... Je vais demander la question. J'ai pas vu le film, je suis le seul des trois. Est-ce que ce film-là aurait pu être bon même sans cette blague-là?
Oui, absolument.
Oui, absolument, oui.
C'est ça. Fait que juste pour ça, je pense qu'effectivement, Sony aurait dû... un peu plus de jugement puis ne pas le faire.
Oui, mais je trouve que ça ouvre le débat sur une question plus grande. Il y a eu le monsieur qui a réalisé Hochelaga, Terre des âmes, qu'on a vu la semaine dernière, a fait une apparition dans Tout le monde en parle, et on a parlé de certaines choses et au niveau de la culture et de la morale et de tout ça, et il a dit on peut pas demander à l'art d'avoir une responsabilité morale parce que c'est pas son objectif, c'est pas son...
Bullshit. Je suis d'accord avec lui. Fortement bullshit là-dessus. Là, je pense qu'au contraire...
Ça serait intéressant d'avoir une discussion plus poussée là-dessus.
Je pense que pour la semaine prochaine, on garde ça en tête, puis peut-être qu'on va en faire un débat complet.
Parce que pour ma part, moi, je trouve ça un peu ridicule d'inviter au boycott de ce film-là, mais je crois qu'il est important de discuter avec les enfants de cette scène-là, des dangers des allergies alimentaires, et surtout que ce n'est pas une façon de se débarrasser des gens. Car, comme tu l'as dit, Louis, c'est vrai que les enfants ne comprennent pas très bien certains concepts. Je connais, par exemple, un petit garçon qui a essayé d'empoisonner ses amis avec des plantes. Mais vous voyez, cet enfant-là, aujourd'hui, n'est pas devenu un tueur en série. C'est une des personnes les plus sensibles et empathiques que je connaisse. Et il est assis à côté de moi. C'est Jim Boulay qui a essayé d'empoisonner ses amis.
Ouais, mais ça, c'est drôle. Mais on constate aussi les deux jeunes femmes de 14 et 15 ans qui, en ce moment, aux États-Unis, se sont faites arrêter et s'en vont en institution psychologique pour les 30 prochaines années pour avoir assassiné une de leurs amies en sacrifice à Slenderman, qui est un phénomène qu'ils ont découvert sur Internet, qui est un phénomène artistique très prenant. Fait que
C'est weird.
C'est ça, on va définitivement faire un débat. Mais sur ça, Lina, ta note sur le film Pierre Lapin.
Oui, je dirais un beau 8.5 sur 10. Si vous avez des enfants, si vous n'avez pas d'enfants, mais que vous aimez les films pour enfants, si le conte de Pierre Lapin a marqué votre enfance, ou simplement si vous aimez rire et passer un bon moment, allez voir Pierre Lapin. Il y a vraiment plusieurs niveaux d'humour, donc tout le monde peut y trouver son compte.
Mais évitez d'y aller le dimanche en plein après-midi, quand il pleut.
Ouais, ça va être plein. Hein?
Ouais.
Ouais, excellent. Merci à vous deux. Ce matin, à la fin, a tué un chasseur. Oui, c'était un lapin
qui avait un fusil. Cette semaine, moi, j'ai été voir un truc qui s'appelle, en anglais, In the Fade, en allemand, Hotschmiss Nicht.
J'ai pas d'accent allemand sweet du tout.
Ça s'appelle bien. Ça
j'ai
bien.
Essayé fort. Sinon, c'est hors de nulle part la traduction française. Je l'ai vu entièrement en version allemande, sous-titré français à la Maison du cinéma. C'était ce qui était offert. Brièvement, ça a été offert en allemand, sous-titré anglais. Malheureusement, j'ai manqué ma fenêtre pour le voir. C'est un... OK, je vais lire la description puis on s'en reparle dans un instant.
Parfait.
C'est un film qui se passe à Hambourg. C'est une bombe artisanale qui est placée devant les bureaux de Nuri Sekersi, qui est un conseiller juridique d'origine kurde. Ça explose, ça tue également son jeune garçon. On suit donc la femme de Nuri, Katia, qui... son épouse allemande qui tente de gérer le deuil de voir donc son mari et son fils partir dans un coup d'éclat. Il y a toute l'idée de l'enquête policière, il y a un deuil qui doit se faire, tout en même temps les poursuites juridiques qui se passent. On trouve effectivement les coupables qui seraient un couple allemand néo-nazi, le couple Moller. C'est qui ont fait une bombe artisanale dans le but d'assassiner des gens de couleur, tout simplement. Puis Nuri était particulièrement une bonne victime parce que interprète et facilitait la traduction et la participation à la vie active allemande à des gens d'origine turque et kurde.
OK.
Ouais, non, donc ça...
Est-ce que c'est une histoire vraie?
Non.
OK,
Mais c'est inspiré énormément de groupes. C'est spécifié à la fin, là. C'est inspiré énormément de ce qui se passe effectivement en Europe en général. Il y a beaucoup question de Aube Dorée. Il y a beaucoup question de groupes d'origine allemande, grecque, qui sont néo-nazis, qui sont de suprématie blanche. Donc, c'est pas un événement particulier, mais c'est effectivement plusieurs aspects qui pourraient être considérés comme étant là, proche de la vérité. Juste pour se mettre dans le bateau, puis pour se mettre dans l'atmosphère, je vais mettre la bande-annonce. Vous excuserez l'allemand.
Yo, 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 willkommen bei der Familie Sekerji. Sag mal hallo.
Yo.
Hallo. Wir sind voll aus.
Ich hole euch wieder ab.
Es gab eine Explosion. Fahren Sie weiter.
Mein Mann hat sein Büro gleich da vorne.
Okay, juste pour mettre en perspective, il faut aussi dire que ce film-là, la raison pourquoi en fait c'est passé au cinéma en ce moment, à la Maison du cinéma, malgré le fait que ça n'a pas été publié en français ni en anglais, c'est que le film a gagné le Golden Globe pour le meilleur film de langue étrangère.
Okay.
Également, Diane Kruger, qui joue Katia dans le film, a gagné la palme de la meilleure actrice. Lors du dernier festival de Cannes. Donc, c'est ça. C'est un film qui est entièrement centré autour de Katia. Là, j'ai de la misère parce que c'est vraiment un nom allemand. C'est Katia Sekersi, qui est la femme qui doit gérer non seulement le deuil, mais qui doit en plus gérer un procès qui va pas très bien, ses habitudes de consommatrice de drogue, en fait, ou ex-consommatrice de drogue, mais qui a recommencé à cause du deuil, son mari qu'elle a rencontré alors qu'il était en prison pour trafic de stupéfiants. Donc, tout le long du film, on a Katia qui donne la réplique à Denis Moshito, qui joue Danilo Fava, l'avocat et l'ami de la famille. Ces deux-là sont extraordinaires ensemble. Je comprends entièrement le Festival de Cannes d'avoir octroyé la palme. C'était effectivement une performance extraordinaire. C'est très beau. C'est un film qui est vraiment magnifique. C'est un peu... Le réalisateur est turc, mais est également passé beaucoup de temps en Allemagne. Fatih Akin. Puis... Ça donne un film qui esthétiquement est très épuré, qui est très crédible, qui est très beau. Ça donne des dialogues super intéressants, malgré le fait que j'ai une traduction puis un sous-titrage. T'sais, j'y ai cru assez aux dialogues. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est les choses extraordinaires du film que j'ai vu. Malheureusement, il y a des longueurs. Juste de par le scénario, c'est un film qui est très émotif. On voit vraiment la descente aux enfers. On voit vraiment l'espèce de tentative de rédemption. Durant le procès, il est comme très clairement indiqué que le couple Moller, qui est le jeune couple de néo-nazis qui ont fait l'attentat, sont protégés par Aube Dorée, qui est une partie néo-nazie grecque. Ils sont comme... Il y a beaucoup d'aspects qui sont mis autour du fait que... c'est une conspiration, c'est un peu sans visage, tout ce qui se passe dans ces trucs-là, mais en même temps, c'est des gens qui sont vraiment convaincus de leur idéologie. Ça donne de quoi d'intéressant, ça donne de quoi qu'il y a des longueurs, ça donne de quoi qui, par moment, te donne envie de brailler sur ton siège parce que c'est vraiment poignant, puis c'est vraiment des performances en close-up. D'autres fois, ça te donne envie de te gratter la tête en te demandant ce qui se passe parce que on passe vraiment beaucoup de temps à mettre en place des éléments qui, finalement, seront jamais réutilisés vraiment ou qui n'existent que pour l'existence près. Tu sais, par exemple, la sœur de Katia, Brigitte, est enceinte. On en fait comme tout un cas dans le début du film. Mm. C'est supposé être là pour représenter un début nouveau ou à tout le moins quelque chose, mais ça ne paye jamais. Autre que pour une petite scène où est-ce qu'on voit le nouveau-né, mais c'est tout. Au deuxième puis même au troisième acte, ça n'existe plus. Le film est clairement séparé en trois actes. C'est même nommé. C'est la famille, la justice, la mère. Parce qu'il y a dans le fond, la famille, c'est justement le début, c'est l'introduction, c'est la rencontre de la famille, donc de sa sœur, de ses parents, mais des beaux-parents également. La justice, c'est tout l'aspect du procès. La mère, on parle ici de la mère M-E-R, donc c'est okay. De l'eau, parce que justement, une fois le procès terminé, ouais, là, je vais pas aller trop loin, mais bref, une fois le procès terminé, elle doit se ramasser justement en Grèce sur le bord de la mer pour compléter son processus de deuil. Hmm. D'une manière qui est finalement très, très violente. On parle d'un film dont la bande sonore a été entièrement réalisée par le chanteur de Queen of the Stone Age. D'ailleurs, c'est de là d'où est tiré le nom du film. Puis ça met en bouche un peu la violence de certaines émotions, pas nécessairement physiquement, même c'est très discret, c'est très bien fait quand il s'agit d'avoir justement le moment où de l'explosion, toutes ces choses-là qui auraient pu être vulgaires ou qui auraient pu être trop sont bien représentées. Mais la violence est au niveau des émotions, la violence est au niveau justement de l'espèce d'injustice que l'on voit au travers le film. Fait que, honnêtement, c'est un film vraiment intéressant, les performances d'acteurs sont vraiment à recommander très fortement. C'est donc quelque chose que je vais donner un solide 8 sur 10.
Bébé.
Yes.
Ça avait l'air très bon. Moi, j'ai vu la bande-annonce, puis franchement, ça vaut la peine de voir la bande-annonce au moins.
Puis l'ambiance sonore, juste dans la bande-annonce, c'est quasiment du Bergman.
C'est tout long, ça. Pour un type qui, justement, à Queen of the Stone Age, je sais pas si t'as déjà entendu, c'est du rock prog un peu... c'est du rock prog, mais rebelle en même temps. Là. Okay. C'est pas du tout dans la même veine, mais ça devient vraiment intéressant lorsque, justement, couplé avec cette violence-là dans le film.
Ah ben.
Fait que, ouais. Vraiment fort, fort crédible. De retour à Cinébrunch, où on va aller parler de notre top 3 des films d'amour pour la Saint-Valentin, ainsi que d'un French Marie Gifle pas piqué des verres. Mais avant cela, Jim, t'as été voir La Confession cette semaine.
Oui, j'ai été voir La Confession. Le film est écrit et réalisé par Nicolas Boukrieff, qui nous avait donné Made in France il y a 2 ans, et qui avait aussi scénarisé Silent Hill il y a 12 ans. On change totalement de style ici. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, je vous ai parlé du film L'Amant double, un film un peu étrange. Eh bien, Marine Vacht, qui était l'actrice principale du film, incarne aussi le premier rôle de La Confession, dont voici la bande-annonce.
Alors, il y a un nouveau prêtre en ville ?
Il paraît qu'il est formidable.
Il est comment ?
Il est jeune.
Moi, c'est surtout sa voix que j'ai appréciée.
C'est parce que vous manquez d'âme qu'il arrive à tout vous allumer comme ça, c'est tout.
C'est bon, on parle pour toi. Hein.
C'est bien d'être venu.
C'est ton ennemi que je suis ici.
Vous croyez ? Il y a longtemps que vous ne vous êtes pas confessé, n'est-ce pas ?
Je ne crois pas en Dieu.
Est-ce que vous mentez quelquefois ?
La dernière fois, c'était à un soldat allemand. Un de ceux qui passent dans votre église.
Donc, l'histoire se passe, vous l'aurez compris, durant la Deuxième Guerre mondiale, alors que la France est occupée par les troupes allemandes et que, disons, la majorité des hommes sont partis au combat. Dans un petit village où tout le monde se connaît, le vieux curé décède et un jeune prêtre très charismatique arrive d'ailleurs, pour le remplacer. Toutes les filles du village sont émerveillées devant lui, son mot et son verbe et son style différents. Marine Vacht interprète Barney, une jeune femme communiste qui ne croit pas en Dieu. Elle travaille à la poste et est répugnée de voir ses collègues parler du jeune curé. Elle décide donc de se rendre à la confesse pour le provoquer sur ses idéaux et ses croyances. Cette rencontre sera plus déstabilisante qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Tout ça est englobé dans un gros flashback parce que le récit est en fait une confession de Barney, qui est sur son lit de mort, donc très vieille, et qui raconte ce qui s'est passé à un jeune prêtre. Évidemment, pas le même, parce que le même, bon, il est rendu très vieux. Et je vous dirai pas ce qui en arrive. Donc, Marine Vacht m'avait troublé dans la mandouble, et ses yeux profonds et la tension dans ses silences est extraordinaire encore une fois dans ce film. Romain Duris incarne le prêtre, sa réputation n'est plus à faire, il rayonnait déjà dès 2002 dans L'Auberge espagnole, dans Les poupées russes, L'écume des jours, et j'en passe une dizaine d'autres. Je ne vous cacherai pas, c'est un film long, c'est lent, c'est introspectif, il y a peu d'action ou de mouvement et les scènes sont toujours, presque toujours dans l'église, au bureau de poste et au presbytère, donc ça ne pète pas, si vous voyez ce que je veux dire. Heureusement, l'ambiance sonore aide à sentir le temps de guerre. On voit quelques soldats allemands. Bon, je pense qu'on peut dire que c'est quand même un film très réaliste, très crédible. Il y a des moments de grande tension, mais aussi des pistes qu'on démarre et qu'on ne traite que trop peu, malheureusement. Je pense à la présence d'un jeune juif que Barney cache chez elle. On veut nous faire peur avec ça, mais finalement, ça n'aboutit pas vraiment. Même chose avec une relation entre une de ses collègues de la poste et un officier allemand. Peu importe. C'est un bon film, mais personnellement, je l'ai vu tout de suite après Pierre Lapin et j'aurais dû faire l'inverse parce que définitivement, c'est ça. La longueur se fait sentir.
C'est plus dur un peu.
C'est dur émotionnellement à voir.
C'est ça. C'est lourd, là.
Ouais.
C'est long, longtemps. Le réalisateur veut vraiment nous faire sentir l'introspection des personnages, l'attente, la lourdeur, l'espoir. Finalement, c'est réussi parce que, pour le spectateur, je pense que le fait de partager cette longueur-là en temps et en attente donne l'impression d'y être vraiment. Donc, un film comme celui-là aurait été très mauvais s'il avait duré une heure et demie. En fait, si on coupe les temps d'attente dans le film, on arrive probablement autour d'une heure et demie. Mais c'est un bon film. Un peu long, mais c'était incontournable, selon moi. N'allez pas voir ce film-là comme un film historique, parce que vous allez être déçu, très peu d'histoire dans le film. C'est un film où on confronte des valeurs, des convictions et des croyances, mais aussi l'individualité et le tout. C'est un film de remise en question, mais aussi de conviction. Je donne 7 sur 10 à ce film. Il n'y a pas vraiment d'erreur dans la réalisation, mais j'aurais aimé qu'il soit un peu plus ambitieux. Et je me demande si le public cible du film n'y serait pas un peu pour quelque chose. Je ne révélerai pas de punch, mais disons que ce n'est ni un film confortable, ni un film très inconfortable.
Les thèmes de la chrétienté, c'est-tu élaboré beaucoup? Est-ce qu'on peut le considérer comme un film chrétien ou plus ou moins?
C'est un film de foi, entre la foi et l'athéisme. C'est pas un film...
C'est pas Dieu est mort là, qu'on a vu il y a quelques années, qui était vraiment orienté au prosélytisme ou à la conversion. Là.
Oh non, on n'est vraiment pas dans cette zone-là. Okay, que c'est d'ailleurs la particularité de ce prêtre-là, c'est qu'il met pas tant de pression. Et c'est comme peut-être ça qui fait qu'il est si populaire. Donc c'est ça. Donc un film franchement intéressant, mais c'est ça. Je pense que quelqu'un de religieux qui va voir ce film-là va le voir d'une façon religieuse. Mm-hmm. Quelqu'un qui ne l'est pas ne le verra pas d'une façon religieuse.
OK. Excellent. Fait que 7 sur 10, tu dis, Jim.
7 sur 10.
Excellent. Merci beaucoup, Jim.
Plaisir.
Fait qu'on serait donc rendu à notre French Marie Gifle spécial Saint-Valentin. French Marie Gifle, c'est le moment où on détermine qui des trois choix suivants va allons-nous embrasser, c'est-à-dire gratification instantanée, qui allons-nous marier, gratification pour le restant de nos jours, ou gifler, donc s'en débarrasser, faire insulte.
Voilà.
Jim, c'est toi qui avais un peu eu l'idée des trois actrices de laquelle qu'on va parler, donc je te laisse le micro.
Donc, cette semaine, on a choisi pour French Marie Gifle les trois actrices suivantes, Julia Roberts, Katie Holmes et Meg Ryan, qui sont connues les toutes trois pour avoir participé à de nombreux films d'amour, Kitten et films qu'on pourrait dire de Saint-Valentin.
Ça me semble un excellent choix de Saint-Valentin. Mais non, quels sont tes trois choix?
Alors, d'entrée de jeu, je gifle Katie Holmes. Je l'aime bien, mais c'est comparé aux autres. Je French Meg Ryan, parce qu'avec son petit air de lutin, Non, mais elle a vraiment... je trouve qu'elle a vraiment un air de lutin. Non, elle est cute, elle... je sais pas, je l'aime bien.
Ouais.
Et Julia Roberts, parce que c'est une actrice incontournable. Alors, je la marie, on pense à tous ses films qu'elle a fait. Et récemment, je l'ai vue dans Wonder, le merveilleux, qui dans lequel elle était excellente. Et elle joue justement dans le film La Saint-Valentin. Donc, voilà, c'est pour ça, c'est ça.
Excellent, ça me semble de très bons choix. Jim, qu'est-ce que tu as choisi, toi, de ton côté?
Écoutez, encore une fois, je vais me confesser. Hein, c'est la journée de la confession pour moi. Je gifle Julia Roberts.
Ah, ouais!
Oui, je savais que j'allais avoir ce résultat-là. Oui, je la gifle malgré son renom et ses très nombreux prix. Je n'aime pas ses films. Je vais rarement en voir parce que je ne cadre pas dans son public cible. Elle joue bien, mais le spectre de son jeu me semble limité à un ou deux types de personnalités. Bref, je gifle Julia Roberts.
Okay.
Je French Katie Holmes, en plus d'être séduisante et le sexe symbole de mon adolescence, dans Dawson's Creek, qui, ma foi, n'était pas écoutable, malgré ça, et malgré qu'elle n'a jamais ou presque un rôle important dans aucun film et que la plupart de ses films ne sont pas aussi écoutables, je la French quand même. Et finalement, je marie Meg Ryan parce qu'elle est juste trop sweet en compagnie de Tom Hanks et dans You've Got Mail et qu'elle me semble la meilleure partenaire de vie en termes de personnalité parce que, comme l'a dit Mélina, elle ressemble à un lutin.
Ça me semble limitant comme sélection de personnalité. Mais je veux dire, ton mariage, tes problèmes.
C'est ma vie, Louis, c'est moi qui choisis.
Mais moi, je... C'est pas ta faute, c'est elle qui t'a joint.
C'est ça.
Moi, je vais commencer par gifler Meg Ryan parce que je refuse. When Harry Met Sally et You've Got Mail sont deux films que je refuse de voir avec une passion inégalée. À part peut-être pour mon refus de voir Titanic, mais ça, on s'en reparlera une autre fois. Je veux que ça reste comme ça. Je pense pas que Meg Ryan a fait quoi que ce soit d'autre qui pourrait m'intéresser. Par conséquent, oust, je gifle Madame Ryan.
Pauvre Madame Ryan. Le lutin Ryan.
Le lutin Ryan. Il faut sauver.
Sauver le lutin Ryan.
Je suis pas convaincu que... Bon, OK. J'aurais probablement marié Julia Roberts, mais elle fait partie du cast original de Flatliners. Fait que c'est non.
Mais pas le nouveau, le vieux.
Mais pas le nouveau, le vieux, mais ça reste trop. Ça reste d'être associé à ce projet-là. Malgré Erin Brockovich, malgré Pretty Woman, que j'ai bien aimé, Jim, malgré tout ce que tu peux faire. Donc, j'embrasse Julia Roberts. Je marie Katie Holmes, parce que non seulement, moi aussi, dans mon adolescence, Dawson Creek m'a fait bien de l'effet, mais elle joue également Rachel dans Batman Begins.
C'est
et
vrai.
Pour ça, ça vaut tout le mariage du monde.
Quoi, ça vaut tout un French, tu veux mon avis?
Non. Moi, c'est la bague à genoux puis toute la patente. Là. Moi, je marie Madame Holmes.
Bon.
Fait que ce serait ça. Fait que dans mon cas, il va falloir sauver le lutin Ryan. Cette chronique-là peut aller dans tellement de directions différentes à chaque fois. C'est vraiment
intéressant. Mais là, le thème de la Saint-Valentin nous amène à quelque chose d'intéressant parce qu'il y a des films qui vont des personnages qui risquent d'être récurrents dans le top 3. Là.
Oh, tu serais surpris à quel point je m'en vais ailleurs complètement. On s'en va donc vers le top 3.
C'est le moment du top 3.
Ce que les gens ne savent pas à la radio, c'est qu'en ce moment, moi, j'ai droit à des performances artistiques vraiment intéressantes de mes collègues ici. On a de la danse qui se fait dans le studio de Saint-Félix, mesdames, messieurs. De la danse.
Écoute-moi, et des faces de lapin, je dois le dire.
Oui, beaucoup. Depuis le début de l'émission, c'est pas mal non-stop, je lapine.
On voulait amener des carottes, mais on a oublié.
Ça aurait vraiment pas fait de la bonne radio. Juste comme ça, ça aurait vraiment pas fait de la bonne radio.
Oui. On pensait à un popcorn aux carottes.
Oui, prochaine fois, peut-être.
On l'a breveté pour les gens qui nous écoutent. N'essayez pas de voler notre idée.
Non.
Popcorn aux carottes.
Mais je pense pas que personne ne va vouloir le faire. Déjà qu'un gâteau aux carottes, c'est comme étirer la sauce pour ce qui est de bon avec des carottes. Mais on serait donc rendu à notre top 3 des films d'amour vus dans le thème de la Saint-Valentin. Là, je brise avec la tradition, je casse des choses. Je vais commencer le top 3 parce que je pense que je vais assez sortir du moule pour que ça vaille la peine.
Je pense que oui, parce que si tu nous sors encore Fast and Furious là, dans ton top 3 de la Saint-Valentin, je sais pas ce que je te fais.
J'y ai pas pensé. J'y ai vraiment pas pensé, mais maintenant que t'en parles... Non, mon top 3, je vais le faire à l'inverse. Donc, en numéro 3, j'aurais Ex Machina, qui est une histoire d'amour entre un homme et une machine. C'est toute l'histoire du flirt d'un androïde avec un jeune homme qui sait pas dans quoi il s'embarque. C'est un jeune homme joué par, encore une fois, Donald Gleeson, qui se fait inviter pour être l'humain dans un test de Turing pour déterminer si une intelligence artificielle est crédible comme personne. C'est Oscar Isaac qui joue l'espèce de savant fou en charge d'expérience. C'est beau, c'est violent, c'est dramatique.
ça finit mal.
Alicia Vikander qui joue justement l'intelligence artificielle. artificielle extraordinaire. Donc, je le recommande, même si, bon, un peu moins traditionnel.
Tant qu'il y a ça, mais Blade Runner aussi, tu sais.
Oui, oui, c'est vrai. Blade Runner 2049, parce qu'il y a la raison
même
d'amour avec le
même l'original aussi, avec l'histoire d'amour avec l'androïde.
Ouais.
Mais non, mon numéro 2, c'est Mud sur les rives du Mississippi, qui est Calvin.
Je ne connais pas ça.
2014, 2015, si ma mémoire est bonne, avec que, dans le rôle principal Matthew McConaughey et Reese Witherspoon. Fait quand même des gros noms. Là. C'est un deux jeunes garçons du Mississippi qui trouvent un homme seul sur une île. Le dos, qui est Matthew McConaughey, c'est deux jeunes de 14 ans qui le trouvent. Lui est persuadé qu'il doit s'enfuir parce qu'il est poursuivi par des chasseurs de primes parce qu'il aurait tué un homme. Et il doit s'enfuir pour retrouver son amour parce qu'il croit à un amour durable et éternel. Et donc, toute l'intrigue du film, c'est de trouver comment est-ce qu'il va réussir à s'enfuir et retrouver Juniper, sa femme qu'il aime, jouée ici par Reese Witherspoon. Et le dernier, mais non le moindre...
Donc, bon, ton numéro 1, là.
Mon numéro 1, mon top 1 de tous les temps. On se reparlera des qualités du directeur à l'extérieur dans la vraie vie, mais dans ce film-là, il était extraordinaire. J'en veux même pas d'avoir volé l'Oscar du meilleur film à Star Wars, l'original. De quoi je parle? Je parle de Annie Hall. Le classique de Woody Allen avec qui joue Harvey Singer, qui est une espèce de névrosé, un peu freak, qui parle de son histoire à New York.
Un film de Woody Allen, finalement.
Mm-hmm. Ouais, mais c'est comme l'original du setup, parce que ça date quand même de 1967. Là,
ouais,
mais tu sais, vous donnez une idée, Diane Keaton, qui est Annie, sa femme dans cette histoire-là, porte ses propres vêtements. Les blagues, c'est des blagues que Woody Allen a faites dans un show d'humour qu'il a organisé. Le setup pour ses parents, c'est un setup similaire à lui. Il parodie un paquet de trucs dans cette histoire-là. Donc, mon premier film d'amour favori, c'est un endroit où est-ce que Woody Allen fait un monologue intérieur où il fait des jokes de pénis.
J'accepte ton numéro 1. Les autres, je suis moins sûr pour la Saint-Valentin, mais celui-là, j'accepte. Oui.
Ben écoute, moi, je refuse d'écouter Titanic, puis je suis pas capable d'endurer You've Got Mail. Fait qu'à un moment donné, il faut que je trouve quelque chose qui est quand même intéressant à regarder, qui élicite des émotions vraiment charmantes, délicates et toute la patente,
oui,
sans tomber dans le mièvre que peut faire, oui, le mot de la semaine, c'est mièvre, que peuvent amener des films d'amour traditionnel. Fait que Jim, t'as l'air d'avoir des opinions fortes. Entendons ton top 3.
Écoute, cette semaine, je me suis dit que j'allais pousser Louis à sa limite avec ma sélection de films romantiques parce que mon numéro 3 est... Titanic!
Ah, Calvin.
C'est pas sérieux!
Oui, parce que la version de Cameron avec DiCaprio, puis toute là, pas la vieille version en noir et blanc de je sais plus quelle année, ce film-là, je ne reverrai probablement jamais d'ailleurs, demeure quand même un de mes plus grands films d'amour contemporain, en fait, pas de mes, mais un des plus grands films d'amour contemporain. Qu'on aime Jack ou qu'on trouve que c'est un voleur hypocrite, n'y change rien, l'intensité du film est à son comble et la scène de la voiture est horrible. Donc, pour moi, Titanic demeure probablement un des meilleurs films d'amour de notre... de la dernière décennie. On a-tu encore le droit de dire ça? Oui.
Oui.
En numéro 2, What's Up Doc, ou en français, On se fait la valise, docteur. Film de 1972 avec Barbara Streisand. Un jeune homme innocent et maladroit se retrouve malgré lui et musicien pris dans une suite d'événements totalement absurdes et rencontre une jeune femme futée qui fout le bordel autour d'elle comme vache qui pisse. Barbara est attachante et le film est assez drôle selon mes standards. Je lui donne la deuxième position et j'en suis d'ailleurs dû pour le revoir. Et finalement, en première position de mon top 3 des meilleurs films pour la Saint-Valentin, ce n'est pas un secret de Pandore ni une boîte de polychinelle ou l'inverse. Finalement.
Si tu dis encore finalement, Claude Atlas, je pense que je te balance en dehors du studio.
You've Got Mail!
Ah.
Et oui, mon top 1 est le film le plus romantique et mignon de tous les temps, emblème de la technologie et clash des cultures et des classes sociales. Une jeune propriétaire d'une librairie indépendante new-yorkaise voit sa vie retourner quand le géant des méga boutiques de livres ouvre ses portes dans le quartier. Comble de malheur, son propriétaire rencontre anonymement la jeune femme par Internet, nouvelle technologie prometteuse en 1980. 98. C'est avec Tom Hanks et Meg Ryan que j'ai marié, rappelons-nous. C'est super vieux, ça a mal vieilli et c'est un placement de produit pour America Online, AOL, alors qu'Internet était encore nouveau et éphémère. Mais finalement, ça existe encore.
Ben, AOL vient de fermer, par contre, là,
oui,
c'est traditionnel.
Il y a quelques mois, oui, effectivement. Non, mais Internet existe encore.
Ben, Internet est définitivement encore. Oui. Vous écoutez probablement sur l'Internet en ce moment.
Fort probablement.
Pas toutes. Il y en a qui nous écoutent à la radio. Hey, ouais. On serait donc rendu à Mélina. J'aime pas tes films, Jim. Juste pour qu'on
soit. Oh, ben je m'y attendais.
Excellent.
J'ai choisi pour toi, Louis.
Ah, c'est si charmant quand tu dis des choses comme ça. Mélina, quel est ton top 3? Calme-nous. Mets-nous dans un mot différent.
Oui, moi, j'y vais avec des classiques. Moi, ça a été très dur pour moi de faire ce choix, car je suis une fan de comédie romantique et de drame romantique. Et pour moi, la Saint-Valentin, l'amour, n'est pas une invention commerciale, même si ce l'est. Bref, rentrons tout de suite dans mon top 3. Donc, en troisième position, une comédie romantique. Je vous en ai déjà parlé. Je vous en ai parlé justement tantôt quand on parlait de Julia Roberts. Je parle de Valentine's Day, en français la Saint-Valentin. Donc, on suit plusieurs personnages la journée de la Saint-Valentin. Et leurs histoires finissent par toutes s'entrecouper. C'est cute, ça fait du bien, c'est une belle comédie romantique. Il y a plusieurs acteurs connus dedans, c'est le fun à regarder. Voilà. Donc, pour mon top 3, en deuxième position, j'y vais avec le classique tiré du livre de Jane Austen, Pride and Prejudice, Orgueil et Préjugés en français.
Mm-hmm.
Donc, c'est avec Keira Knightley qui crève l'écran, honnêtement, dans ce rôle-là, et Matthew McFadden. C'est une histoire d'amour qui se déroule à la fin du 18e siècle. C'est un excellent film. Parfait pour voir ou revoir en cette semaine de l'amour, un de mes grands classiques.
Hmm.
Et en première position, j'y suis allée avec un drame romantique. Ça s'appelle The Notebook, les pages de notre amour en français. C'est basé sur un roman de Nicholas Sparks. C'est avec Rachel McAdams et Ryan Gosling. C'est sorti en 2004. Et c'est une histoire d'amour, évidemment, qui débute peu de temps avant la Deuxième Guerre mondiale. Un amour passionnel entre deux personnes qui ne viennent pas du même milieu. On les suit pendant une très longue période de temps. C'est un film, écoutez, honnêtement, que je pleure. Je pleure souvent en regardant des films, en fait.
Oui, t'as pleuré dans Pierre Lapin.
Ben, c'est
donc,
ça.
Oui.
Mais ce film-là me fait pleurer.
Il a parlé du père qui s'est ramassé en tarte ou...
Ben, je pense que je pleurais de rire à un moment donné d'émotion parce que c'est quand même touchant, Pierre Lapin. mais pour en revenir à The Notebook, les pages de notre amour, ce film-là me fait... Je pense que je pourrais remplir un bain avec mes larmes tellement je pleure durant ce film-là. Je refuse de l'écouter dans des périodes de ma vie où je suis trop sensible parce que je pense que je souffrirais de déshydratation sévère.
Ne pas écouter dans le désert.
Non, c'est ça, mais c'est un film qui est vraiment touchant. Écoutez, si vous ne l'avez pas vu, ça vaut la peine de le voir. C'est, selon moi, le film d'amour par excellence. Il est disponible en plus sur Netflix. Donc, voilà. Et mention spéciale, comme d'habitude, quand je fais des top 3, à deux de mes scènes préférées dans Grey's Anatomy, deux des scènes les plus romantiques de la série, quand Dr. Shepherd fait sa demande en mariage à Meredith Grey et quand elle lui construit une maison en chandelles. Ça bat un peu, c'est tellement romantique et beau, et voilà.
Donc, Kéten, oui.
C'est le moment des sorties cinéma.
Je suis sorti avec...
On s'est donc maintenant rendu aux sorties de la semaine. On a une semaine quand même chargée, mais c'est tout pas des films que j'ai envie de voir.
Ça promet.
Non, c'est pas vrai, j'exagère. Il y en a au moins deux que j'ai envie de voir. On a War with Grandpa, La guerre avec Papy, qui est un enfant, je le sais. Un enfant doit à contre-cœur libérer sa chambre pour que le grand-père ait un hébergement. Il apprécie son grand-père, mais il voudrait qu'il lui rende sa chambre.
Ça, c'est un des deux que tu vas aller voir, c'est ça?
Non. Okay. Mais
je
pense quand même.
Que moi, je vais aller le voir, celle-là. Okay.
Mais on va quand même s'en parler. Il y a quand même Robert De Niro, Jane Seymour, Uma Thurman, Christopher Walken dans ce film-là. Je veux dire, moi, il y a quand même du stock intéressant. Malheureusement, pas dans un registre que je trouve intéressant. Le projet pour vivre ici, c'est une femme dans la soixantaine qui vient de perdre son mari et qui quitte sa petite ville de la Côte-Nord pour visiter ses enfants à Montréal, puis revisiter les lieux de son enfance dans le nord de l'Ontario. C'est québécois, c'est entre autres, mettant en vedette Thélise Guilbeault, Sophie Desmarais, puis c'est Bernard Raymond qui le réalise. Fait que ça a l'air quand même bon. Je pas tout à fait mon registre encore une fois, mais vraiment intéressant. La bande-annonce est touchante.
Bon.
Nelly et Simon, Mission Yeti. Mélina, tu devrais peut-être considérer aller voir ça.
Nelly et Simon?
Nelly. Nelly, désolé, malheureusement. Québec, 1956, les destins de Nelly Malloy, détective privée débutante, et Simon Picard, assistant de recherche en sciences, se croisent accidentellement. Soutenu par un mécène ambitieux, Malloy, intuitif et chaotique, et Picard, méthodique et obsessionnel, se lance dans une aventure visant à prouver l'existence du Yeti.
Wow.
Pour y arriver, Simon compte sur le journal d'un explorateur pour les mener au repère de la créature mythique. Bref, c'est un film d'animation, c'est québécois. Les voix sont faites par Sylvie Moreau, Guillaume Lemaitre-Vierge, Rachid Badouri, Stéphane Crête, Edgar Futi et Sébastien Benoît.
Sébastien Benoît, le lecteur de nouvelles.
Non, Sébastien Benoît, le...
L'animateur
culturel. Ah. Tu sais, le type qui faisait les concours dans le temps. Puis...
Ah oui, OK. Mais il n'y a pas justement une chanson de...
Oui, mon oncle Serge.
Non, c'est ça. C'est... Okay.
Oui, mais honnêtement, ça fait quand même 12 ans de cette histoire-là. Mais bref, ouais. ça a l'air vraiment ambitieux. Puis pour un film d'animation québécois, ce qui n'est pas nécessairement quelque chose d'habituel, c'est pas quelque chose que le cinéma québécois nous a habitués.
Effectivement.
Ça peut être quelque chose. Oui, on sait jamais.
Peut-être une critique commune, qui sait.
Faut qu'on s'en reparle de ça. J'en ai peut-être d'autres projets aussi. Mais la semaine d'après. Bref, on a aussi Les Gardiennes, un autre film français, cette fois-ci 1915. À la ferme du Paradis, les femmes ont pris la relève des hommes partis au front.
Oui.
Première guerre mondiale oblige. Qui travaillent sans relâche. Dans le fond, ça a l'air d'être un truc de genre, on s'occupe de la ferme pendant que les hommes sont partis, puis on vit des émotions là-dedans. C'est un film très français. C'est Xavier Beauvoin qui dirige et réalise. Jim, peut-être plus ton registre.
Ben déjà, le moment temporel, la temporalité du film et l'histoire m'intéressent. Après, on verra.
Encore une fois, c'est un cas de check la bande-annonce. Ouais. Ça vaut quand même la peine.
Je vais faire mon devoir.
Probablement, moi, le film en fait qui me tente vraiment, c'est Annihilation. C'est une biologiste qui participe à une expédition gouvernementale sur le site d'une catastrophe écologique pour retrouver la trace de son mari disparu. Ça a l'air rien, la bande-annonce est juste malade. C'est réalisé par Alex Garland, le type qui a dirigé Ex Machina. Il a également été scénariste sur Dredd, le remake du film des années 80, Judge Dredd.
Moins haut, mais...
Ben, pour moi, quand même haut. Okay. Puis il était également scénariste et écrivain sur 28 jours plus tard, qui est à ce jour mon film de zombies favori. Dans le film, on a Natalie Portman, Jennifer Jason Leigh, Tessa Thompson ainsi que Oscar Isaac. Beaucoup de belles affaires dans ces gens-là. Je pense que je vais...
on pourrait y aller ensemble, oui.
Très fortement conseillé. moi, ça me ferait plaisir. C'est pour toi.
Okay, on en parle.
Ouais, c'est ça. On s'en parle de ces choses-là. Fait que ce serait ça pour les sorties cinéma cette semaine. Netflix nous promet rien. Puis il n'y a plus personne qui achète des DVD. C'est fini ce temps-là.
C'est mort.
On aurait donc fait le tour de tout ce qu'on a à dire cette semaine. Ce sera donc la fin de notre épisode. Si jamais vous voulez avoir plus de contenu Cinébrunch, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook. Bonne semaine.
Bye bye.
Bon cinéma.